Question d'islam par Ghaleb Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de la canonisation du Coran. Non seulement son autorité, comment est-elle reconnue d'emblée par la communauté des croyants musulmans, mais aussi sa mise par écrit, comment tout cela a été fait, l'histoire du Coran. Et j'ai plaisir à accueillir Anne-Sylvie Boiliveau. Anne-Sylvie Boiliveau, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment de nous faire l'amitié, de nous donner de votre temps et de nous parler de ce sujet. Alors j'annonce tout de suite pour nos amis auditeurs que vous êtes en ligne, puisque vous êtes à Strasbourg, vous n'êtes pas présente ici dans le studio. Vous êtes, on dit maintenant, maîtresse de conférences en histoire de l'islam médiéval à l'université de Strasbourg, et surtout vous êtes une spécialiste reconnue du Coran, du corpus coranique, de son histoire, de ses arcanes. Et donc, d'emblée, cette question de la canonisation. Moi, j'ai cru comprendre d'abord qu'un canon du grec, c'est plutôt une règle, une mesure, un ordre. Dans les contextes chrétiens, il y a canoniser quelqu'un, c'est lorsque l'Église et le souverain pontife dans le domaine catholique reconnaît la sainteté parmi les défunts d'une personne. Et il y a la canonisation de la Bible, et maintenant nous parlons de la canonisation du Coran. Et vous-même, dans vos travaux, vous parlez d'une canonisation par le Coran lui-même en autoréférence. Si vous pouviez nous expliquer ça d'emblée, nous vous en serions reconnaissants.
En fait, donc, la canonisation, c'est essayer de voir à partir de quand, où, comment, etc., à un moment, un texte fondateur, enfin un texte est reconnu et fixé par un groupe de personnes, par une autorité, par les adeptes d'une religion, par exemple, et à partir de quel moment on dit, voilà, c'est cette version-là qui fait autorité, et cette version se diffuse. Alors, c'est tout un processus, donc on appelle ça le processus de canonisation. Pour, évidemment, les historiens se posent beaucoup de questions à propos de ce processus, et dans les travaux auxquels vous faites allusion, dont j'avais... pour lesquels j'avais fait un article il y a quelques années, c'était en fait de se dire le Coran lui-même, le texte coranique tel qu'il nous est parvenu, texte standard, parle-t-il de sa propre nature, donc ce qu'on pourrait appeler une sorte d'autoréférence. Et en allant un peu plus loin que cela, c'est pas seulement parle-t-il de sa propre nature, c'est-à-dire se décrit-il comme révélé, etc., mais en plus, se donne-t-il autorité, en fait ? Parce que si on creuse un petit peu plus, évidemment, quand le texte affirme qu'il est révélé par Dieu, forcément, il se donne une autorité absolue, une autorité très très forte. Et donc, c'était un petit peu ça, le sens de ces travaux, c'était de regarder dans le texte tel qu'on l'a, tel qu'il s'est diffusé, et de voir que, en de nombreux passages, donc ce qui est bien connu des musulmans, mais en de nombreux passages, il y a une affirmation forte comme quoi le texte est une révélation divine, c'est-à-dire qu'il est descendu, plus précisément le mot c'est pas révélation, c'est plutôt le fait d'être descendu, un tanzil, de la part de Dieu sur le prophète, et ce prophète, il y a donc ce prophète qui apporte ce Coran. Il y a une notion de récitation, d'inspiration, et l'idée que Dieu transmet un message à travers ce texte révélé au prophète. Et il y a aussi beaucoup d'autres termes qui entrent en jeu et qui sont utilisés par le texte coranique pour décrire ça, et notamment un des termes peut-être les plus importants dans ce enfin, c'est le mot kitab. Kitab, qui veut dire, voilà, un écrit, qui peut vouloir dire un livre, une écriture comme une écriture sacrée, mais qui peut aussi, qui a quelques autres sens aussi, quelque chose qu'on impose aussi. Hein. Et dans le Coran, ce mot kitab est très courant, à la fois pour auto-décrire, c'est-à-dire décrire le livre qui est là, qui est en train d'être constitué, et à la fois pour parler des kitab, donc au pluriel kotob, des livres d'avant, et que le Coran décrit comme lui-même comme des livres aussi révélés, également révélés à des prophètes dans le passé. Et ces prophètes sont surtout en fait Moïse notamment, et puis de quelques autres prophètes. Et donc l'idée, c'est que c'est souvent ces livres du passé correspondent, on va dire, grosso modo, à la Bible hébraïque ou la Bible des chrétiens, l'Évangile, etc. Donc y a la Torah est nommée un certain nombre de fois, l'Évangile quelques petites fois, mais disons qu'il y a, ça veut dire que si on revient au Coran, le Coran développe ce propre discours où il se met en scène en tant que livre sacré ou écriture sacrée ou écrit, un peu du même genre que ces livres, enfin du même genre que même ces livres révélés auparavant, c'est le Coran qui le dit hein, comme ça. Oui. Et qui dit que, voilà, notamment le livre révélé à Moïse, le livre descendu sur Moïse ou apporté par Moïse. Et donc, il se met au même statut, dans le sens où ces livres et lui-même sont vraiment révélés par Dieu. Voilà, il y a une insistance sur ça qui est très forte et qui donne autorité au texte. C'est en ce sens-là que j'avais l'idée qu'il y a une sorte de mise en avant de l'autorité du texte dès le texte même. C'était plus dans ce sens-là plutôt que dans le sens d'une fixation. Oui. Que j'avais parlé d'autocanonisation, en quelque sorte. Voilà.
Parce que le débat, c'est que d'un double ordre. Le premier, c'est que cette canonisation et donc la forte argumentation en faveur de l'autorité du texte est déjà concomitante de la prédication mohammedienne et la récitation du Coran par le prophète lui-même. Et toujours le Coran qui présente cela comme une vérité d'évidence et qui est comme ça proposée ou offerte ou imposée, si je puis dire, à ceux qui l'entendent. Et d'autres disent, parmi les historiographes et même, que c'est avec la fixation que cette canonisation est venue, après avoir colligé, rassemblé, recensé, fixé une vulgate, en quelque sorte.
Alors là, la canonisation, donc c'est vraiment un processus. Et ce processus, les historiens essaient de le reconstruire, mais ils ont des visions très différentes suivant les questions qu'ils posent. Et puis peut-être qu'avant de passer aux questions de ces historiens, peut-être qu'il est bon de mentionner comment globalement dans la tradition musulmane, souvent on considère donc bien sûr que le Coran est révélé au prophète, et puis que après sa mort plusieurs personnes seraient intervenues pour faire mettre par écrit ce Coran qui aurait été uniquement oral. Il y aurait eu notamment l'intervention du calife Abou Bakr et qui aurait chargé une équipe avec Zayd ibn Thabit, un scribe, de recueillir le Coran auprès de divers des personnes qui le connaissaient par cœur, et le mettre par écrit sur des feuillets, hein, des souhouf, des feuillets indépendants. Et puis, un petit peu plus tard, donc ça, c'était entre 632 et 634, donc juste après la mort de Mohammed. Et puis, dans les années 650, un peu plus tard, sous le troisième calife, troisième successeur de Mohammed, calife Othman, à nouveau, on aurait essayé de produire une canonisation, mais cette fois-ci en rassemblant tous ces feuillets et en cherchant à constituer un texte unique. Hein, les traditions qui racontent cet épisode insistent sur le fait que le but était de prévenir la divergence de récitation, hein, parce que un général, le général
Hudaïfa.
Hudaïfa, voilà, qui était parti dans la campagne, lors des conquêtes, dans la campagne d'Arménie et d'Azerbaïdjan, se serait rendu compte que des soldats récitaient le Coran de manière divergente. Et pour prévenir cette divergence, il aurait, il aurait prévenu le calife. Le calife aurait fait faire cette commission qui aurait rassemblé donc une version unique du Coran, ce que par la suite aujourd'hui on va appeler la Vulgate osmanique, un peu comme ou le Mushaf de Osman,
le codex,
voilà le livre de Osman. Et cet épisode, donc dans les années 650, aurait marqué la canonisation officielle du Coran. Ça, c'est souvent ce qu'on entend de manière générale. Mais après, quand on regarde plus en détail dans les traditions musulmanes, donc par tradition musulmane, on veut dire un ensemble de textes produits dans les débuts de l'islam et dans l'islam médiéval, qui sont de nature très différente, des textes plutôt religieux, plutôt historiographiques, etc., plein de textes. Et dans ces textes-là, il y a des traces et des explications de ce qui s'est passé. Et donc, ce que je viens de décrire juste avant, c'est l'explication la plus commune qui s'est beaucoup répandue, hein, notamment dans un recueil de hadiths de Bukhari et dans les textes du grand exégète Tabari.
Tabari, oui, le chroniqueur. Voilà.
Mais en réalité, on a aussi d'autres épisodes dans cette canonisation qui sont relatés par la tradition musulmane elle-même. Et ces épisodes sont nombreux et divers et donnent des rôles différents à différentes personnes des débuts de l'islam. Je pense là aux travaux de Madame Viviane Comero, qui a écrit un livre qui analysait justement ces ensembles de traditions, et aussi aux travaux, par exemple, de Monsieur Hassan Shahdi, notre collègue de l'Université de Lorraine, aussi a travaillé aussi beaucoup sur ces traditions, pour montrer que, en fait, les traces dans la tradition musulmane de la canonisation du Coran sont diverses et ne se réduisent probablement pas juste à ces deux épisodes de Abou Bakr et Osman.
Et de ce point de vue, qu'en est-il du codex d'Ibn Mas'ud ?
Alors, dans la tradition musulmane également, on a des traces de l'existence de Masahif, donc c'est le pluriel de Mushaf. Mushaf, c'était un codex, un manuscrit qui, par la suite, est venu à désigner explicitement les manuscrits du Coran, mais avant c'était un mot qui désignait les manuscrits. Enfin, avant et dans d'autres, enfin ça existe dans d'autres utilisations, mais disons, c'est devenu le mot pour le Coran. Oui,
on disait étymologiquement, ça renvoyait à des feuillets reliés par un fil, ce qui serait une sorte de carnet, en quelque sorte, si j'utilise un mot de nos jours. Et donc, cela a donné l'idée d'un mushaf qu'on appelle codex. Et donc, après, en vous ayant interrompu pour une petite futilité comme ça, poursuivons, si vous voulez bien, sur, justement, le codex d'Ibn Mas'ud, parce que il ne recèle pas, je le dis uniquement pour nos auditeurs, les dernières sourates connues maintenant comme étant les préservatrices ou les prophylactiques les dernières sourates courtes, et il n'aurait pas non plus l'ouvrante ou la préface invocatoire ou celle qui ouvre la Fatiha.
Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Donc les traditions qui parlent de ce... En fait, les traditions musulmanes parlent aussi de Masahif, donc de Mushaf, du Coran, qui prédaterait le moment où Othman fait cette canonisation. Et donc, ces mushaf auraient été chez différents compagnons du prophète, donc, et certains, notamment le compagnon Ibn Mas'ud, auraient eu ces mushaf, et ces mushaf auraient été un petit peu différents du mushaf canonisé par Othman. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne les a pas, ces mushaf. On n'a que leur description. Et effectivement, une chose qui est assez importante, que vous avez bien notée, c'est que le mushaf, donc cette version du Coran avant Osman, que possédait un compagnon, eh bien, elle ne possédait pas apparemment la sourate Al-Fatiha, donc la première sourate, et puis les deux dernières petites sourates, Al-Mu'awwidhatayn, les deux petites sourates finales, voilà, ce qui pose aussi des questions. Voilà, ça fait partie, ces descriptions de ce codex pré-canonique, hein, ça fait partie des éléments qu'il faut prendre en compte, des éléments de la tradition musulmane qu'il faut prendre en compte pour essayer d'approcher une histoire du texte coranique qui soit la plus proche de ce qui a pu se passer. Mais c'est délicat parce qu'il n'y a pas que cette anecdote-là, il y en a beaucoup d'autres, tant sur des masahif avant Othman que des anecdotes sur diverses actions de divers personnages, y compris après diverses personnes de l'islam, y compris après Othman. Hein, par exemple, on a toutes les anecdotes à propos du calife Abdelmalik, calife Omeyyad.
Et connaît-il de cette idée qu'un certain Ibn Shanaboud a été bastonné parce qu'il n'aurait pas voulu réciter selon la Vulgate d'Othman? Et on est déjà à deux siècles et demi.
Bien sûr.
Et c'est peut-être même cet incident pour certains qui aurait fixé ce qu'en latin on aurait appelé un textus receptus universus nevalitur. C'est voilà, parce qu'on voulait pas subir le supplice qu'avait subi ce Ibn Shanaboud.
Cet épisode avec Ibn Shanaboud, c'est effectivement bien plus tard, hein, c'est au Xe siècle. Et c'est lorsqu'a lieu ce qu'on appelle une autre partie de la canonisation qui est liée à ce Abu Bakr ibn Mujahid, hein, qui meurt vers 935-936, qui en fait impose des variantes de lecture, ce qu'on appelle les qira'at, les variantes de lecture. Mais là, alors pour que les auditeurs puissent comprendre, je crois qu'il faudrait dire que dans les premiers moments de l'islam et dans les premiers moments du Coran, on va dire, le Coran, quand il est mis par écrit, il n'est pas écrit avec toutes les voyelles, il est écrit d'une façon défective. Bon, je simplifie parce qu'il y a des nuances, il y a aussi des voyelles longues qui n'apparaissent pas ou qui changent de forme, il y a des lettres spécifiques comme la hamza, je parle juste là aux personnes qui connaissent la langue arabe, voilà. Bon, il y a des choses comme ça qui n'étaient pas dans le texte au début, qui ont été mis, rajoutées, etc. Donc ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au début, dans les premiers siècles de la mise par écrit, l'écriture est défective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on ne note pas par écrit tous les éléments qui permettent de prononcer exactement. C'est-à-dire qu'on ne note pas certaines voyelles. Voilà, parce que la langue arabe est comme ça.
Oui, voilà. Pour certains philologues, il y avait cette idée de carcasse consonantique avec des lettres homographes ou des squelettes sans point diacritique. Et ce n'est que bien plus tard, pour pouvoir les distinguer, ces lettres homographes qui se ressemblent et qui n'étaient là en réalité que comme support ou aide-mémoire pour une mémoire prodigieuse, dit-on, chez les Arabes de l'époque.
Oui, ou parce que simplement, voilà, c'était comme ça. On n'avait pas encore développé un système cohérent et connu pour les voyelles, et pas seulement les voyelles, effectivement, pour distinguer certaines consonnes. Certaines consonnes se distinguent avec des points aujourd'hui, enfin ensuite dans la suite de la langue arabe, mais pendant longtemps, se distinguaient pas de cette manière. Et donc, ce qu'on appelle la vocalisation ou le fait de mettre des points diacritiques dans le texte coranique, ça a pris du temps, et parce que ça n'existait pas dans la langue à ce moment-là aussi, donc ça a pris du temps, et ça s'est fait petit à petit. Et donc, ce qui veut dire que le texte, même par exemple l'épisode de Othman, s'il a bien eu lieu, ça on ne sait pas comme historien, mais s'il a bien eu lieu cet épisode de canonisation du Coran sous l'époque de Othman, ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas être pour que les gens récitent 100% exactement avec les mêmes voyelles, puisque les voyelles ne sont pas notées, ne peuvent pas être notées à ce moment-là. Elles ont forcément été notées plus tard, parce que quand on regarde les manuscrits, on voit qu'à ce moment-là, dans le 7e siècle, on ne pouvait pas encore noter tout le détail. Mais il ne s'agit pas de grands changements de sens, il s'agit de changements qui peuvent parfois changer le sujet et l'objet dans une phrase, mais qui vont globalement pas changer l'ensemble du sens du Coran, on va dire. Hein, ce sont des nuances, en fait.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons de la canonisation du Coran, de son autorité, de son discours argumentatif, de l'histoire aussi, de la fixation du texte avec Anne-Sylvie Boiliveau, maîtresse de conférence en histoire de l'islam médiéval à l'Université de Strasbourg. J'ai cru comprendre, chère Anne-Sylvie Boiliveau, que il y avait justement, comme il n'y avait pas les voyelles, on acceptait ce qu'on appelle en termes techniques, et je le dis sous votre contrôle, les clausules à la fin des versets qui pouvaient changer. Par exemple, si un verset coranique devait finir par « et ceci est pour ceux qui sont doués d'intelligence », on pouvait accepter à la place « et ceci est pour ceux qui savent réfléchir » ou « et ceci pour ceux qui raisonnent », etc.
Oui, alors là...
C'est une autre affaire.
Oui, c'est une autre affaire. notre collègue Hassan Shahdi qui a beaucoup développé ces questions-là, et notamment la question... Enfin, il n'est pas le seul. Hein, il y a aussi... on a aussi des travaux sur tout ce qu'on appelle la transmission par le sens et non la transmission à la lettre. La transmission bil marana, par le sens, opposée à la transmission bil lafs, par la lettre. Et il semblerait que dans les tout débuts de l'islam, il y a eu, en tout cas dans certains milieux, on ne sait pas exactement, mais il y a des traces de cela dans la tradition musulmane, il y a eu des pratiques qui consistaient à transmettre le Coran par le sens, avec ce fameux hadith où « tant que tu ne changes pas un verset qui parle de l'enfer par un verset qui parle du paradis, ça va ». Donc après, on ne sait pas dans quelle latitude c'était utilisé ou dans quelle latitude ça a eu lieu, on ne sait pas. Mais on a des traces d'une sorte de souplesse chez certains dans les tout débuts de l'islam. Mais bon, il n'empêche que assez rapidement, il semblerait que le texte a été quand même fixé et ne varietur, comme vous dites, c'est-à-dire sans changement en ce qui concerne ensuite l'ordre des mots et les mots, etc. Simplement, la fluidité ou la pluralité, enfin le pluralisme, on va dire, le caractère pluriel, je vais y arriver, le caractère pluriel qui est présent, qui a toujours été présent et qui est présent jusqu'à aujourd'hui, c'est celui des qira'at, donc des fameuses variantes de lecture, c'est-à-dire en fait des variantes de prononciation et parfois quand même des variantes de mots. Parce qu'en réalité, il y a parfois des petits mots, y compris dans les consonnes, qui changent. Mais c'est rare et c'est peu de choses. Voilà. Mais ça, cette variante de lecture, elle était présente au tout début, avant la canonisation de Haussmann ou avant la canonisation de la fin du 7e siècle, début du 8e, on ne sait pas exactement quand est la grande canonisation, on va dire. Et puis, ça continue après. C'est-à-dire que ces variantes de lecture, ces variantes de récitation existent. Et donc, on a, comme vous avez signalé, au 10e siècle, Ibn Mujahid qui... en lien avec les vizirs abbassides de l'époque, déclare qu'il y a sept manières de lire le Coran, de le réciter. Hein, donc ce sont les fameuses sept qira'at. Et puis ensuite, au fil du temps, les savants musulmans en ajoutent quelques-unes qu'ils ont. Voilà, ou alors. Signale, c'est-à-dire à chaque fois c'est des questions de transmission, donc signale des variantes transmises par tel ou tel ancien lecteur du Coran, ce qui fait que on a 10 branches principales, puis ensuite 14 branches, puis ensuite chaque branche se divise en fait en plusieurs versions. Donc ce sont des variantes de prononciation, comme on dit, sauf quelques petites variantes de mots. Voilà.
Alors j'aurais une question qui n'a pas trait directement à la canonisation, mais quand même, c'est l'idée que on a fixé quand même un texte qui paraît, pour un non-arabophone, un discours décousu, déroutant, incohérent, hétérogène, fragmenté. Et pourtant, il y a une cohérence d'ensemble, une logique qui sous-tend le texte. Et quand même, c'est un discours argumenté.
Il y a plusieurs choses là. C'est-à-dire que, une première chose, on peut dire qu'effectivement, il y a des. C'est pas un texte complètement décousu, dans le sens que forcément. Il y a des grandes idées, des idées phares qui se répètent. Le texte est cohérent de ce point de vue-là. C'est-à-dire, il y a des choses, ben, Dieu, son unicité, les fins dernières. Le texte s'engage avec son lecteur ou son auditeur, c'est-à-dire le texte essaie vraiment de persuader ou en tout cas de faire que le lecteur se décide ou l'auditeur se décide ou non à accepter cette autorité de sa propre autorité, cette autorité du Coran. Donc le texte a des idées, voilà, qui du point de vue historien, on dit plutôt le ou les auteurs ont des idées sur le qu'il enseigne, qu'il développe et qui sont récurrents. Donc il y a une cohérence. Après, quand on regarde dans le détail, si on est historien du texte et on essaie de se dire mais comment le texte a pu être composé, etc., etc. Là, pas du tout d'un point de vue croyant, mais vraiment d'un point de vue d'un historien qui cherche comment ça a pu s'agencer tout ça, qui a écrit ça, comment ça s'est fait, etc. Là, on voit qu'il y a un certain nombre de reprises. Est-ce qu'on reprend tel ou tel verset, alors exactement le même, pourquoi on l'a repris à tel endroit et pas à plus loin dans le recueil, etc. Donc là, ça pose énormément de questions. Il y a notamment aussi, par exemple, le texte, par exemple, mobilise des récits anciens sur des personnages anciens, notamment des personnages qui apparaissent dans les traditions bibliques hébraïques, notamment, qui appartiennent aussi également au judaïsme ou au christianisme. Et le texte les utilise à sa manière, et les interprète. Et on se rend compte, par exemple, que une même histoire, une même anecdote à propos d'un prophète lambda va être réutilisé de manière différente dans différentes sourates, différents chapitres du Coran. Et on voit clairement qu'il y a, à chaque fois, il y a des orientations. Par exemple, telle ou telle sourate va focaliser davantage sur tel ou tel point, par exemple sur l'omnipotence de Dieu, ou je ne sais pas, plein de choses. Voilà. Et donc, on voit que le texte présente à la fois beaucoup de répétitions et à la fois des organisations spécifiques dans telle ou telle sourate, mais même des structures à l'intérieur des sourates. Ça dépend quelle sourate, mais il y a quand même un certain nombre de sourates qui sont très structurées d'une manière plutôt concentrique, on va dire, c'est-à-dire un peu en miroir, pour simplifier, je vais dire
un peu chiasmatique, le terme approprié. Voilà. Ce sont des chiasmes. Alors, d'aucuns disent qu'il ne faut pas l'aborder dans une lecture linéaire avec ce dont on a l'habitude, une introduction, un développement, une conclusion. Mais il faut avoir une lecture un peu en surplomb, globale, presque holistique, une lecture qui prend la totalité du Coran. Et là, on voit cette structure concentrique ou en miroir.
Alors, tout dépend de ce que l'on cherche aussi, mais il y a une grosse question aussi, une énorme question quand on se pose la question de la composition du Coran, donc, même avant la canonisation. Il y a une grosse question qui est celle de la chronologie de cette composition ou de cette apparition. Si les croyants vont dire apparition, les historiens vont plutôt dire composition. Enfin, je simplifie à gros traits, on va dire. Oui. Mais voilà. Mais au bout du compte, c'est à partir de quand ce texte existe et quel morceau. Et alors, il y a eu dans la tradition musulmane, mais de manière un petit peu minoritaire quand même, l'idée d'une liste de sourates, des sourates qui se suivent, c'est-à-dire telle sourate est composée à tel moment, puis celle-ci à tel moment, etc., etc., avec l'idée que parfois certains versets sont rajoutés à un autre moment dans la sourate, etc. Et puis des orientalistes au XIXe siècle, ou en tout cas des universitaires européens qui se sont penchés un petit peu sur ces questions, certains ont essayé de reprendre et d'évaluer s'il y a une chronologie de la composition du texte, est-ce que telle sourate date de telle période, etc. Et bien sûr, ça rejoint la question générale dans la tradition musulmane de dire il y a des sourates mécoises et des sourates médinoises, c'est-à-dire les sourates mécoises qui datent plutôt du début de la mission du prophète Mohammed, quand il était encore à la Mecque, et puis les sourates médinoises qui datent d'après l'Hégire, donc d'après 622, entre 622 et 632. Voilà. Et en fait, même si on essaye de reconstruire, enfin, donc il y a des savants européens qui ont aussi essayé de reconstruire cette succession de sourates, ça pose un certain nombre de questions parce que, d'abord, on n'est jamais sûr de rien, personne n'avait d'enregistreur, etc. Ensuite, on se fonde sur des thèmes, sur l'évolution des thèmes, mais il y a le danger, du coup, de reconstruire quelque chose qui ne correspondrait pas à la réalité et qui correspondrait plutôt à ce qu'on imagine de plus plausible. Donc ça, c'est pas forcément... on imagine que l'évolution de la manière dont le prophète voyait telle ou telle chose, voilà, et donc on en a dû... Donc c'est très difficile, cette question. Et puis en plus de ça, aujourd'hui, finalement, pourquoi ça serait linéaire ? Pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que des personnes ou une personne, du point de vue historien, que quelqu'un compose des sourates, y compris à l'écrit d'ailleurs. Ça se pose. C'est une grosse question aussi, oral, écrit, difficile. Et retravaille des sourates dans un même moment, en fait. Hein, parce que voilà, ça pose énormément de questions. Mais on peut pas trancher parce qu'on a... On a beaucoup de suppositions d'historiens diverses et variées. Je peux peut-être mentionner là un petit exemple.
Je vous en prie, oui.
Oui, si vous voulez bien. Je pense à un article de Guillaume Dy.
Oui.
Où il mentionne un verset, enfin, deux ou trois versets qui se correspondent et où il est question de... où il est question de rapport avec les femmes et d'abstinence. Il montre, en fait, en prenant ces deux groupes de versets, il montre qu'en fait, tel groupe de versets a dû être ajouté ultérieurement. C'est comme si une partie de ces versets sur l'abstinence sexuelle devait dater d'un moment où une communauté devait être plutôt petite et une communauté de personnes très très engagées dans un certain ascétisme, et puis qu'à un moment plus tardif, quelqu'un aurait rajouté un élément qui assouplit les règles données en fonction du coup d'une communauté plus large. C'est juste pour dire que quand on travaille vraiment sur le texte en détail, on voit qu'il y a des reprises avec des ajouts, des corrections, etc. Mais je pourrais juste ajouter à ce sujet, enfin, tout ça c'était pour dire que ça nous permet de dater comparativement certains passages, enfin certains passages par rapport à d'autres. Mais c'est que un micro-travail, voilà. Mais je voudrais ajouter avec ça, c'est que ce que je voudrais ajouter à cela, c'est que d'autres universitaires regardent cette idée d'évolution du texte d'une manière un peu différente. Je pense là notamment à Angelika Neuwirth,
oui,
la grande chercheuse allemande, et à d'autres personnes aussi, comme Nicolas Sinai, qui est un chercheur, un professeur à Oxford, qui se pose aussi les questions du développement du texte, et qui voit plus, alors je parle là plutôt d'Angelika Neuwirth, qui voit plus le développement du texte comme un processus un processus continu d'engagement.
Un réexamen constant de la parole récitée.
De la parole récitée. C'est comme si le prophète, ou en tout cas le récitateur, récite son message, et puis en fonction des réactions de l'auditoire et de la compréhension qu'on a de l'auditoire, va peut-être redire les choses, mais d'une manière différente ensuite, de façon à préciser sa pensée, ou à préciser la pensée ou qui lui est transmise, ou sa propre pensée. Enfin, voilà. Et donc, elle voit le développement du texte coranique comme cette interaction entre un annonciateur, c'est-à-dire un proclamateur, et un public qui le suit et qui récite aussi le texte avec lui. Et voilà, donc il y a différentes manières, suivant les différents universitaires, de regarder ces questions de chronologie du texte, mais alors on est loin de savoir ce qu'il en est. Enfin, je veux dire, c'est très complexe.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons de la canonisation du Coran avec Anne-Sylvie Boiliveau. Anne-Sylvie Boiliveau est maîtresse de conférences en histoire de l'islam médiéval à l'Université de Strasbourg et spécialiste reconnue du Coran. Pour cette dernière partie, Anne-Sylvie Boiliveau, si j'ai bien compris qu'il y a deux points fondamentaux dans cette auto-canonisation chère à Denis Gril et à vous-même comme appellation, c'est que l'écrit coranique se présente comme un écrit sacré par lui-même et qui recèle sa vérité d'évidence, et puis il se décrit comme une descente de l'empiré ou de Dieu vers les hommes. Pour cela, il y a toute une rhétorique qui est déployée. Et cette rhétorique elle-même se retrouve, cette fois-ci c'est ma question, un peu déclinée d'une manière homélitique. C'est une forme d'homélie. Parfois, il y a des paraboles, il y a une présentation métaphorique ou allégorique. Il y a des passages qui sont normatifs ou législatifs. Il y a toute une histoire des prophètes, par exemple. Cette rhétorique au service de l'autocanonisation fait appel à ces différentes déclinaisons que j'ai énumérées.
Oui, tout à fait. En fait, alors après, ça dépend de la lecture qu'on fait de l'ensemble du texte. Hein. Loin de moi de prétendre avoir la seule lecture. Chacun est libre de sa lecture et de sa compréhension. Mais je dirais que, en me penchant vraiment sur cette question, il m'a semblé que vraiment le texte mobilise, donc le texte, ou alors en tant qu'historien, l'auteur du texte ou les auteurs, mobilise beaucoup de choses pour vraiment donner autorité au texte, comme vous avez dit. Et donc, notamment, le rôle du prophète est mis en avant, hein, le rôle du prophète qui est dans le Coran, le prophète actuel du Coran, donc identifié comme étant Mohammed, parce que 4 fois dans le Coran, son nom apparaît, et que si on fait une lecture globale, on peut considérer que c'est lui. Après, ça dépend. Si on ne fait pas une lecture globale, moi, je préfère parler du prophète actuel qui est en train d'apporter le Coran. Et donc, tout ça pour dire qu'effectivement, le Coran,
Occurrences, c'est très peu, 6236 versets coraniques.
Oui, 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 c'est peu. Mais donc, par contre, le prophète, ce fameux prophète, il est très présent parce qu'il est très souvent interpellé par le texte, hein, la deuxième personne. Toi, nous t'avons révélé ceci, nous t'avons envoyé comme messager, etc. etc.
Et dit à l'impératif, dit au fait, oui, voilà.
Bien sûr, voilà, récite ceci, dit cela, etc. Donc, en fait, le texte construit un discours dans lequel il y a ce fameux prophète actuel qui apporte ce courant, et le texte défend ce prophète face à des attaques. C'est-à-dire le texte présente des attaques d'autres personnes qui semblent contester ce rôle de prophète, et le texte répond à ces attaques pour ces fameux contre-discours dont parle aussi mon collègue Mehdi Azaïès, hein, ce fameux contre-discours pour contrer les oppositions au texte. Donc, vous voyez, le texte fait plus que simplement dire sa propre autorité. Il donne aussi la propre autorité de celui qui l'apporte, hein, de ce fameux prophète qui apporte ce Coran, et il le défend en désactivant, on va dire, en déboulonnant chacun des arguments possibles qui sont évoqués. Enfin voilà, le texte les évoque pour les défaire, en fait, pour les déconstruire et pour donner l'autorité à ce texte. Et alors, en fait, il y a deux éléments dans le texte qui se tiennent ensemble. C'est vraiment le Coran est vraiment un kitab, c'est-à-dire vraiment un livre révélé par Dieu. Enfin, le texte dit ça de manière constante, et de l'autre côté, le prophète est vraiment un prophète, est vraiment un vrai prophète, c'est-à-dire il apporte vraiment ce que Dieu lui donne, et c'est pas lui qui invente, etc. Donc le texte argumente sur ces deux lignes ensemble, en fait, hein, de manière et on sent qu'il y a un souci de la part de l'auteur ou des auteurs de mettre ça en avant et de le défendre, voilà.
Et est-ce que le débat est tranché entre ceux qui, d'un côté, disent que dans le cas spécifique du Coran, la canonisation a eu lieu du vivant même du prophète, une sorte de canonisation en cours, une canonisation en acte, ou une canonisation qui, finalement, avec l'argument d'autorité, est déjà reconnue par les destinataires de cet écrit, et ceux qui disent que, in fine, la canonisation est plutôt tardive, classique dans ce cas, ce n'est qu'après avoir fixé le texte.
Alors, c'est une énorme question, et on n'est pas en mesure
de la trancher maintenant,
de manière aujourd'hui en tant qu'historien. Mais vous avez raison, c'est une grande question, c'est-à-dire que on peut avoir une hypothèse où peut-être même du vivant de Mohammed. Donc, si on dit le texte date du vivant de Mohammed, et peut-être qu'il a même été mis par écrit du vivant de Mohammed, parce qu'il y a aussi des anecdotes en ce sens, hein. Donc, peut-être que c'était très tôt, et effectivement, le discours même du texte coranique a directement servi dès les débuts à une canonisation, y compris écrite, peut-être, on ne sait pas. Peut-être que c'est plus tard, à l'époque de Othman, et peut-être que c'est bien plus tard, et là on arrive dans des travaux qui reprennent notamment le rôle attribué donc au calife Abdelmalik, le calife omeyyade de la fin du 7e siècle, hein, qui règne entre 685 et 705, et son fameux gouverneur Al-Hajjaj ben Youssef, et qui aurait eu un rôle. Alors la tradition musulmane leur attribue un rôle dans des modifications du mushaf, du texte coranique. Mais alors, certains historiens disent oui, ce rôle aurait été minimisé, hein, et que certains disent en réalité il y aurait eu vraiment un gros travail qui aurait été fait pour la canonisation du texte donc à la fin du 7e siècle, voire même, alors ça c'est, on a par exemple l'historien Shoemaker, qui a publié un livre, Creating the Quran, en 2022, là, qui postule l'idée qu'il a pu avoir une sorte de composition, enfin une partie de la composition a pu dater, hein, de ce moment assez tardif, qui est vers la fin du 7e siècle, que certains éléments auraient pu dater de ce moment-là, avec l'idée, en fait, que à ce moment-là, les arabo-musulmans sont à la tête d'un immense empire et sont minoritaires en nombre au milieu de populations qui sont adeptes d'autres religions, et notamment des chrétiens ou des juifs. Et donc, il y a un souci peut-être d'ajouter des éléments qui se retrouveraient alors dans le Coran à ce moment-là. Après, on ne sait pas, ce sont des hypothèses. C'est une hypothèse, si vous voulez, beaucoup plus sceptique, alors que d'autres vont plus aller vers la période prophète ou les premiers califes. Donc on ne sait pas très bien, bon, ça pose un certain nombre... Il n'y a pas d'hypothèse idéale, c'est-à-dire que tout pose un certain nombre de problèmes. Hein, c'est-à-dire que ce soit au tout début, pardon, je rajoute peut-être juste ça, au tout début, si on considère que la canonisation a eu lieu au tout début, à la période de Mohammed, ou même sous Othman, par exemple, ça pose quand même des problèmes importants, du point de vue de l'historien, et si on le met plus tard, ça pose aussi d'autres problèmes. Si on a la canonisation assez tôt, ça pose. On a là encore un article de Guillaume Di sur les contextes du Coran, qui est un article qui est en ligne, accessible gratuitement. Hein, les contextes du Coran. Dans cet article, il pose la question de comment un texte qui a tellement de liens avec des connaissances très précises de questionnements religieux qui existaient auparavant dans l'Antiquité tardive, parce que le Coran a une très forte intertextualité, c'est-à-dire une relation avec beaucoup de textes beaucoup plus anciens, et on a l'idée que le Coran répond de manière parfois très très fine à des questions et des débats qui étaient présents, notamment dans le judaïsme ou dans le christianisme, mais pas que, enfin, voilà, beaucoup de choses. Et donc, mais comment ça se fait, quoi? Comment ça peut avoir lieu? Voilà, donc,
ce qui explique pourquoi, sur certains aspects, le texte coranique paraît elliptique ou allusif, ce qui sous-entend qu'il aborde des questions connues des interlocuteurs, même voilà, dans une approche polémique.
Voilà, et du coup, certains, on se demande, est-ce possible que un tel texte avec des questions et un public, enfin, qui suppose un public tellement au courant de ces questions, ce texte a-t-il pu avoir lieu effectivement à la Mecque ou a-t-il pu être écrit ou composé ou à la Mecque ou à Médine? Voilà, ça pose un peu des questions. On n'a pas de réponse, vraiment. Voilà.
Et
ça peut être beaucoup plus tard aussi. Voilà.
Oui, il y a aussi cette hypothèse du fait que, de par le contact des musulmans avec d'autres communautés constituées, notamment du monothéisme abrahamique, les juifs d'un côté, les chrétiens de l'autre, qu'il y a eu aussi cette volonté de s'adosser à un texte qui fait autorité et qui a ses propres bases liturgiques, didactiques, juridiques, comme le canon biblique.
Oui, bien sûr. Le texte apparaît dans un monde où il existe beaucoup d'autres choses, et le texte utilise des choses qui sont là et les oriente à sa manière, dans sa propre idée, tant par rapport à sa propre autorité que par rapport à des éléments de loi, des éléments d'organisation de la société, etc. Donc,
c'est une sorte... Parce qu'on a éprouvé la nécessité de se référer à un canon, donc, et c'est la canonicité du Coran est aussi établie du fait que plus que la communauté naissante, maintenant la communauté bien établie, doit avoir un texte qui fasse autorité et qui est leur référence absolue.
Oui. Et alors, il y a aussi une chose peut-être, c'est que on a peu de traces, on a peu de mentions du Coran dans des textes autres. Enfin, on a peu de mentions du Coran dans les premières années, en fait, de l'islam. Et ça, c'est un petit peu des questions. C'est un petit peu, on a aussi peu de mentions du prophète. C'est un peu plus tard où on a plus de mentions. Alors, après, est-ce qu'on n'a pas de mentions parce que c'était évident ou est-ce qu'on n'a pas de mention parce que ces deux éléments qui sont devenus très importants par la suite n'étaient peut-être pas importants au début. On ne sait pas trop. Ça pose des questions. Voilà. Alors, il y a juste une chose peut-être que je voudrais rajouter.
Je vous en prie. Oui.
Dont on a peu parlé aujourd'hui, mais qui sont très importants pour travailler sur la question de la composition et de la canonisation du Coran, c'est bien sûr l'étude des traces matérielles et notamment des manuscrits. Et là, j'invite vraiment les auditeurs à regarder par exemple les travaux notamment de François Desroches, hein, notamment par exemple son livre Le Coran, une histoire plurielle, je crois que c'est 2019, où il essaie de faire un bilan. Hein, c'est oui. Vraiment intéressant. Il y a aussi, bien sûr, dans le premier volume du Coran des historiens, publié par Mohamed Ali, Amir Mouezi et Guillaume Di, il y a aussi des chapitres, dans le premier volume, des chapitres qui touchent à cette question du lien entre la canonisation et les manuscrits. Il y a les travaux d'Éléonore Sellard sur les manuscrits. Il y a les travaux de, plus récemment aussi, là, de Mathieu Tillier, qui est professeur à la Sorbonne, qui a, avec Naïm Ventillem, ils ont publié l'édition d'un très ancien manuscrit coranique. Donc il y a tous ces travaux sur les manuscrits.
Et ce qu'on appelle aussi l'histoire matérielle.
L'histoire matérielle. Okay. Voilà, c'est pas seulement les manuscrits, c'est aussi l'épigraphie. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire rentrer dans cette enquête sur les débuts de l'islam et la canonisation du Coran, mais c'est difficile de tout rassembler.
Bien sûr, j'entends bien, et nous arrivons justement au terme de l'émission, tout en vous remerciant vivement, chère Anne-Sylvie Boliveau.
C'est moi qui vous remercie.
De nous avoir donné au moins cet éclairage, en tout cas pour nos auditeurs qui vous en sauront gré. Et vous êtes la bienvenue à chaque fois que vous voulez nous donner de votre temps pour nous expliquer davantage cette histoire et ce processus de la canonisation du Coran. Merci infiniment.
Merci.
Alors, chers amis auditeurs, c'était l'émission Questions d'Islam. Vous la retrouverez, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture. Et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Éric Boisset et la réalisation est assumée par l'ami François Connac.